France Culture, Antoine Guillot. Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui D comme Douglas, Kirk Douglas, avec Christophe Leclerc et Entebbin.
I'm Spartacus!
Et ça fait plus d'un 60 ans que nous sommes tous Spartacus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'était, selon la formule consacrée, un des derniers, enfin n'oublions pas, Olivia de Havilland, monstre sacré d'Hollywood. Et sa disparition cette semaine à 103 ans a fait replonger notre imaginaire cinéphile dans cette période particulière du cinéma américain, l'âge classique finissant et luttant contre les coups de boutoir de la télévision à coups de films spectaculaires et tourmentés, une ère qui vit dans l'immédiat après-guerre apparaître de nouveaux héros, des durs à cuire désabusés, dont le plus sombre d'entre eux, le plus rugueux, le plus cynique, le plus asocial et le plus névrosé, violent et vulnérable, était Kirk Douglas. Avec son torse puissant d'athlète, son animalité férocement érotique, son visage si particulier, sourire carnassé, pommettes hautes et menton en galoche orné d'une fossette aussi profonde que légendaire, mais comment fais-tu pour raser ça ? Lui demandait Kim Novak dans Liaison secrète, l'œil fiévreux voire exorbité, un visage anguleux mais d'une rare mobilité qui lui permettait d'alterner surjeu outrancier et sous-jeu d'une ténébreuse intériorité. Kirk Douglas, sans doute le plus masochiste des acteurs hollywoodiens, bien plus qu'un Clint Eastwood, ses personnages sont amputés, estropiés et très souvent même décédés à la fin du film. Kirk Douglas n'aura jamais craint d'incarner des personnages antipathiques. La vertu n'est pas photogénique, écrivait-il dans son autobiographie, j'ai construit une carrière en jouant les fils de pute, constituant ainsi et très sciemment une filmographie des plus impressionnantes comme une encyclopédie de tous les grands cinéastes de l'époque, de A comme Aldrich à W comme Wilder en passant par De Toz, Hawks, Kazan, Kubrick, Mankiewicz, Mann, Turner et bien sûr Minnelli, des cinéastes avec qui, mis à part ce dernier, il eut souvent maille à partir. Car la star avait vite compris que pour avoir son mot à dire, il fallait prendre le pouvoir et devenir ce producteur paradoxal qu'il était, tyrannique dans ses tournages, mais progressiste dans ses sujets, à l'image de ce Spartacus qu'il restera à jamais dans nos mémoires. Pour rendre hommage à Kirk Douglas aujourd'hui dans Plan Large, Christophe Leclerc, auteur d'un livre sur l'acteur, sa persona et son jeu, Kirk Douglas le fauve blessé et le viking de Plan Large, Entebbin. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous parlera du maître étalon du film de procès, qui est le chef-d'œuvre d'Otto Preminger, Autopsie d'un meurtre, mais pour l'heure, direction Albuquerque, New Mexico, pas loin, une galerie s'est effondrée avec un homme dedans, quelle aubaine.
Hey, you look pretty good here. Want to hear what I wrote about you? The grief-stricken wife with a tear-stained face trying to fight her way into the cave to be at her husband's side.
Tough. You'll just have to rewrite me.
In the pig's eye, this is the way it reads best. This is the way it's going to be. Tomorrow's paper and the next day. It's the way people like it. It's the way I'm going to play it. Get this. There's three of us buried here. Leo, me, and you. We all want to get out, and we're going to. Only I'm going back in style. You can too if you like. Not with any 11 stinking dollars. You saw those people. To you, they're a couple of squares, huh? To me, they're just the beginning. To me, they're Mr. and Mrs. America. I wasn't sure before, but now I know they're going for it. They'll eat it up. The story and the hamburgers. You'll sell all your hamburgers, hot dogs, soda pop, and all your Navajo rugs. There's going to be real dough in that cash register by tonight. When they bleached your hair, they must have bleached your brains, too.
cynique au dernier degré, ce journaliste déclassé qui compte bien regagner son rang avec un fait divers tragique. Donc c'est un homme coincé dans une galerie dont il va retarder le sauvetage, évidemment, pour faire durer plus longtemps son histoire, avant de réaliser à la fin qu'il est sans doute le pantin de son propre carnaval. C'est le gouffre chimère, sans doute le plus sombre, le plus cruel des films de Billy Wilder. On est en 1951, le plus lucide sans doute aussi de ses films, satire donc très féroce du journalisme à sensation, de ce qu'on appelait pas encore le cirque médiatique. Et Kirk Douglas, Entebbe, y est particulièrement génial, glaçant, un journaliste ambitieux, sans scrupules, enfin tout, individualiste, misanthrope, tout oui, ce qu'il faut.
Il avait demandé à Wilder de tempérer un petit peu son personnage dans des scènes pour le rendre un peu plus proche du public, et Wilder lui avait interdit. Et c'est là que se situe la force du jeu de Douglas jusqu'à la fin de sa carrière, c'est que quand il y va à fond. C'est-à-dire que il n'y a pas de baisse de régime chez lui. Il est toujours à fond. He's always on, comme disent les Américains. Et alors, ça peut parfois fatiguer. Ça fatigue ses partenaires, ça fatigue son équipe, ça fatigue parfois le spectateur. Mais à la différence de son collègue et presque jumeau à un moment donné, et rival et puis devenu ami Burt Lancaster, je pense que les personnages joués par Kirk Douglas, à la fin du film, ils n'ont jamais assez de temps ou ils n'ont jamais le loisir de tirer la morale des horreurs qu'ils ont subies ou qu'ils ont provoquées, parce qu'ils sont toujours dans le même dans la même énergie qui est impossible à réprimer.
Alors, il a un point commun avec Burt Lancaster, effectivement, on pourrait tracer des parallèles très intéressants entre les deux. C'est un physique aussi, et notamment un poitrail très très impressionnant. Burt Lancaster, dans ses films, va beaucoup le montrer, et Kirk Douglas, tout autant. Hein, il écrira dans son autobiographie, Le fils du chiffonnier, « J'étais probablement le premier homme à Hollywood qui eût dû se dénuder pour obtenir un rôle, et c'est un rôle où il est dénudé parce qu'il est boxeur, qui va en faire une star, et c'est très peu de temps avant le gouffre chimère. Quand on regarde ce film, on se dit, bon, voilà, c'est Kirk Douglas, la star, mais en 1951, ça fait à peine 2 ans qu'on l'a découvert, ou en tout cas qu'il a commencé à être populaire, Christophe Leclerc.
Oui, effectivement, c'est son 11e film. C'est le 3e où il a un rôle extrêmement important et de premier plan, évidemment, après Le Champion, qui le fait vraiment devenir une vedette, qui le met en avant. Et La femme aux chimères, un film beaucoup moins connu avec Lorraine Bacall. Effectivement, il rejoint un personnage qu'il a déjà beaucoup joué, le personnage de Tough Guy, de type antipathique, très rude, très dur. Il est de toute façon de ces acteurs qui démarrent après-guerre ou qui explosent après-guerre comme Burt Lancaster, Robert Mitchum, Sterling Hayden, c'est-à-dire des physiques rugueux. On est dans une période de désabusement, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Le cinéma ne veut plus de visages lisses. De visages de profil grec type Robert Taylor, avant-guerre ou Tyrone Power. Donc il correspond à l'époque, il a un physique qui marque bien l'époque. Néanmoins, ce type de personnage, des personnages donc arrivistes, ambitieux, qu'il a joué auparavant, il ne le refera plus guère, au fond. Sa ligne de force ici, ce n'est pas la nature ou la typologie du personnage, pour moi, c'est plutôt, comme le disait Bean, l'énergie exceptionnelle qu'il déploie, une énergie... Il est survolté, c'est un tempérament de feu.
Il manque même d'étrangler pour de vrai sa partenaire dans une scène où il doit lui passer une fourrure autour du cou.
Voilà, c'est la virilité exacerbée et la violence à l'égard des femmes. Hein, c'est pas un gentleman du tout, c'est pas Cary Grant, c'est pas Gary Cooper. Effectivement, il y a plusieurs séquences de films comme ça, en particulier dans Le Champion, où il maltraite, où il violente les femmes, indéniablement. Et puis, quand même, s'esquisse aussi, ce que vous avez suggéré, une instabilité psychologique. D'ores et déjà, même si cette énergie est une force, indéniablement, il y a une faille psychologique qui commence à apparaître assez fort.
Oui, moi, il y avait un morceau d'entretien que j'avais vu à la télévision française, en français d'ailleurs, parce qu'il parlait français, il a vécu en France, et qui met aussi dans ses mémoires. Et pour moi, ça résume exactement son jeu d'acteur, mais dans tous ses films. Il dit, quand je dois jouer un personnage fort, je cherche sa faiblesse, et quand je dois jouer un personnage faible, je cherche sa force. Et ce balancement, en fait, c'est exactement ce qu'il exprime dans les études de tous ces personnages.
Oh, whiskey, leave me alone.
Whiskey, leave me
alone. Whiskey, leave me alone.
Whiskey, leave me
alone. Whiskey, leave me alone.
Whiskey, leave me alone.
remember I must go home. My glass looks so very empty. My heart feels empty too. Would a glass that is full make me think she is true? Oh, whiskey, leave me alone. Oh, whiskey, leave me alone. Oh, whiskey, leave me alone. Remember, I must go. Go.
I see you ain't found that Zeb Calloway yet.
Well, we ain't been looking very hard.
No.
He ain't much, but hog calling won't fetch him. You ought to be learned to keep your feet to yourself.
Sick him, boy.
Oui, quand on boit trop dans un saloon de western, même s'il y a des Français ici, hein, puisqu'on est dans le Missouri, et à l'époque il y a autant de trappeurs français qu'américains, ça finit souvent en bagarre et on peut finir assommé. C'est La Captive aux yeux clairs en 1952, le deuxième western d'Howard Hawks, hein, 4 ans après la Rivière Rouge, film absolument magnifique, au rythme très lent comme ça, lent et majestueux, épousant les méandres du fleuve, un des premiers films pro-indiens aussi, enfin non, un film très important dans l'histoire du cinéma, avec un Kirk Douglas assez étonnant, à rebours justement du personnage de l'extrait précédent. Il est jovial, là encore il montre outrageusement sa poitrine avantageuse avec sa chemise ouverte jusqu'au nombril, et puis il va perdre un doigt dans ce film, dans une scène assez dingue où il va, dans un état d'ébriété, chercher son doigt par terre parce que selon les coutumes indiennes il faut être enterré entier pour pouvoir passer dans l'au-delà. Et je l'ai dit en introduction, Christophe Leclerc, il y a peu de stars masculines qui auront été autant malmenés physiquement dans leurs films.
Oui, c'est exact. Parmi ses contemporains, on trouve d'autres acteurs qui effectivement subissent autant de maltraitance, on va dire, de mauvais traitements, en particulier James Stewart, hein, chez Anthony Mann, il est quand même assez malmené aussi. La génération suivante, vous l'avez dit, Clint Eastwood. Il est clair qu'effectivement, ce personnage est souvent un corps martyrisé, avili, souillé. Je ne sais pas dans quoi il faut trouver l'explication, où se tient l'explication. Il est clair que le fait d'être un Spartacus crucifié, ça satisfait bien l'ego de Kirk Douglas tout de même. Hein. Et pour basculer tout de suite sur l'autre angle que vous souleviez, je crois qu'il faut absolument insister là-dessus, avec La Captive aux yeux clairs, avec 20 milieux sous les mers, à peu près à la même époque, il développe une autre veine de son jeu, il prouve qu'il peut être un acteur de comédie, il est cocasse, il est même histrionique. C'est un Kirk Douglas très différent, un Kirk Douglas qui finalement peut tout à fait plaire aux enfants, contrairement aux personnages, aux héros, ou aux anti-héros dont on parlait auparavant. Mon fils l'a vu à 5-6 ans, je le salue au passage, Thomas, et il a beaucoup apprécié ce type d'exercice chez Kirk Douglas.
Et c'est un personnage de western aussi particulier. Il n'en a pas tourné tant que ça. Ça doit être une dizaine à peu près sur les 70 films. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, pardon, c'est qu'il a fait 3 duos avec John Wayne. Et l'antagonisme, il me semble, fonctionne assez bien. C'est Kirk Douglas et T. Bean. C'est presque l'anti-John Wayne dans le western, non?
C'est l'anti-John Wayne, c'est l'anti-Gary Cooper. Enfin, c'est un personnage moderne dans l'univers du western. C'est un personnage... alors justement qui a des failles, qui les montre, contrairement à John Wayne qui ne veut pas les montrer, qui en a aussi mais qui veut absolument jamais les montrer. Lui, il les exhibe. Et comme il fait avec tout d'ailleurs, c'est dans la comédie, c'est vrai qu'il peut être bon, c'est-à-dire cette scène où il perd un doigt est une scène de comédie d'ailleurs. Oui. Mais par contre, il est c'est pas un personnage qui a de l'humour au sens ironique. Kirk Douglas, il ne sait pas être ironique.
Il est entier à chaque fois.
Voilà, enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Il a des paradoxes, mais il les assume en même temps. Il n'y a jamais de, ou rarement, de sous-texte. L'intention, elle est présente. Quand la faiblesse est derrière la force, on la voit quand même. Il la montre. Et je crois que, en cela, il est un vrai miroir des contradictions de l'Amérique à cette époque-là. Et il a une position, d'ailleurs, vis-à-vis du pouvoir au sein du cinéma, qui est absolument cruciale, puisque c'est un producteur, mais un vrai producteur, pas uniquement de véhicules pour son image, non, pour des projets auxquels il croit.
Ça, on va y venir au producteur, parce qu'il n'est pas encore producteur à ce moment-là. Mais il est face à un cinéaste qui ne lui convient pas du tout. C'est Howard Hawks. Mais alors, pour lui, un bon cinéaste, c'est quelqu'un qui prépare énormément, qui tourne très efficacement et très rapidement, et qui va éventuellement retravailler après. Il reproche dans son autobiographie à Howard Hawks sur ce tournage d'être indolent et surtout d'improviser. C'est-à-dire de lui demander à la pause de midi, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Et ça, pour Kirk Douglas, c'est l'horreur.
Ah oui, mais non, il lui reproche pas, il le constate. Mmh. Et ce qui est très intéressant dans ses mémoires, c'est que contrairement aux mémoires de beaucoup de stars, il analyse beaucoup le travail avec les metteurs en scène. C'est assez rare finalement. Et on voit très bien que il y a des metteurs en scène. Howard Hawks, en même temps, il l'admire de pouvoir imposer ça au studio, de pouvoir s'arrêter toute une demi-journée pour réfléchir à la scène suivante, à la réécrire. Il apprend aussi ça. Et il admire aussi beaucoup Minnelli, par exemple, dont en général les acteurs se plaignent très souvent. Et lui, il a fait 3 films majeurs avec lui, et il l'admire énormément, il va le soutenir, et je crois que, voilà, il a cette lucidité-là, de savoir que le metteur en scène peut lui apporter, et quand il travaillera lui-même comme producteur avec des metteurs en scène, il fera la part des choses entre, par exemple, un metteur en scène qui peut être à la fois un sale con et à la fois le plus brillant avec lequel il ait jamais travaillé. On va, je pense, y revenir.
Minnelli, en tout cas, pour l'instant, le voici.
Good night, George. Stop looking like that. Remember, I didn't ask you here. You couldn't stay where you belong, could you? You couldn't enjoy what I made possible for you, no. You'd rather have this. Well, congratulations. You've got it. All laid out for you so you can wallow in pity for yourself. The betrayed woman. The wounded doe with all the dribble that goes with it going through your mind right now. Oh, he doesn't love me at all. He was lying. All those lovely moments, those tender words. He's lying. He's cheap and cruel. That low woman, Lila. Well, maybe I like Lilas. Maybe I like to be cheap once in a while. Maybe everybody does. Or don't you remember? Get that look off your face. Who gave you the right to dig into me and turn me inside out and decide what I'm like? How do you know how I feel about you? How deep it goes? Maybe I don't want anybody to own me, you or anybody. Get out! Get out!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Kirk Douglas avec Christophe Leclerc et N.T. Bean. Et pour le coup, c'est un Kirk Douglas très, très tourmenté et très en colère aussi qu'on entend dans cet extrait. Il joue un producteur de cinéma mégalomane, impitoyable, redouté, déchu. Ensuite, qui va dans cette scène chasser sa star de chez lui un soir de première à succès, parce que quand il a fini un film, il est assez déprimé. C'est The Bad and the Beautiful, Les Ensorcelés de Minnelli. On en parlait, qu'il tourne juste après la Captive aux yeux clairs, donc une période incroyable dans la filmographie de Kirk Douglas, parce que c'est sans doute, à mon sens, le plus grand film de Minnelli. C'est aussi une des interprétations majeures de Kirk Douglas. Alors vous l'avez dit, ils font 3 films ensemble, N.T. Bean, avec Minnelli. C'est le seul cinéaste avec qui il va faire autant de films. Il n'aura jamais eu un cinéaste de prédilection, comme beaucoup d'autres comédiens à l'époque. Il parle de lui, je cite encore ses mémoires, comme d'un metteur en scène tendu et colérique avec les acteurs, mais avec lui, il se montre charmant. Qu'est-ce qui se passe dans le couple Minnelli-Douglas, Christophe Leclerc?
Alors, un élément d'explication qu'on peut trouver, c'est que finalement, Minnelli arrive à incorporer Kirk Douglas à son modèle d'acteur, ce qui n'était pas évident au départ. Minnelli développe beaucoup dans sa filmographie un archétype qui est celui de l'artiste tourmenté.
des peintres, des architectes, etc. Et je pense que Douglas, comme le disait Bean tout à l'heure, est un personnage qui, un acteur qui ne veut pas de rôle unidimensionnel, de rôle monolithique. Il n'est pas du tout quelqu'un qui est sur des rôles manichéens bien et mal. C'est pas aussi tranché. Chez Minelli, trouve donc des personnages qui lui conviennent de ce fait. Des personnages, encore une fois, dont la psychologie est déséquilibrée. Des personnages qui sont en quête d'un idéal qu'ils n'arrivent pas à satisfaire. Et toujours la création au cœur chez Minelli, au cœur de ses œuvres. En fait, la création, c'est un exutoire des névroses pour les personnages de Minelli. C'est une planche de salut. C'est une manière de s'en sortir. Ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'extrait, c'est une colère homérique de Kirk Douglas. Et de fait, ça c'est aussi une constante chez lui. Régulièrement, il y a ce qu'on appellerait chez Al Pacino des blasts, donc des explosions. Et je ne sais pas si Kirk Douglas, on lui demandait de le reproduire systématiquement sous contrat. Il semble que pour Al Pacino, c'est le cas, que les scènes de colère sont prévues dans chaque contrat. En tout cas là, il délivre son énergie. Il est d'une agressivité redoutable. À la fois, ça peut être un acteur jovial, on l'a vu dans 20 milieux sous les mers et La Captive, mais ça peut être aussi quelqu'un de terriblement inquiétant.
Oui, mais alors il y a une chose qu'il s'égrait à Minelli, c'est que Kirk Douglas, lui, il était parti pour jouer le salaud, le producteur violent, ambitieux, arriviste, qui piétine les autres. Et puis Minelli, à un moment, lui a dit, mais... joue-le, mais avec charme. C'est-à-dire, ne montre pas cette violence-là, montre l'inverse. Et du coup, ça a été une clé. Et ça, je crois que Kirk Douglas, c'est ce qu'il cherche chez un metteur en scène, c'est des clés comme ça qui pourront le guider, lui donner une direction. La direction d'acteur, pour lui, c'est donner une voix. Et c'est pour ça que quand il va être producteur, il va partager en fait le pouvoir, parce que la création au cinéma, c'est aussi le pouvoir, avec des metteurs en scène qui savent l'utiliser, lui, comme instrument, mais comme instrument à plusieurs notes.
Dans les trois films que Douglas fait avec Minelli, à la fin, il y a un film qui s'appelle 15 jours ailleurs, qui reprend même, d'ailleurs, on voit des extraits des Ensorcelés à un moment. Mais au milieu, il y a évidemment le film sur Van Gogh, la vie passionnante de Vincent Van Gogh, qui est un moment assez particulier pour Kirk Douglas, parce que c'est pas un acteur de la méthode. C'est quelqu'un qui va dire dans son autobiographie, là encore, pour moi, jouer, c'est créer une illusion, c'est faire preuve d'une discipline immense, et non se perdre dans le personnage que l'on incarne. Mais il y a un personnage dans lequel il va se perdre, c'est celui de Vincent Van Gogh, à tel point que quand il écrit des lettres à Minelli, il signe Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa vie, Christophe Leclerc, d'acteur ?
Le personnage l'a envahi, si je puis dire. Il intériorise visiblement d'abord son personnage, ce qui pourrait correspondre assez bien à certains égards à la méthode de Stanislavski, à ce qu'on enseigne à l'acteur studio. Hein. Tout commence dans votre tête, dit-il en 1972. Et pour Van Gogh, il dit aussi « j'ai trouvé en moi les tourments du personnage ». En tout cas, sans dire qu'il y a un fil biographique à trouver en sous-texte, ce qui est certain, c'est que c'est une expérience limite d'identification au personnage pour Kirk Douglas. Et je voudrais quand même faire un petit lien encore avec Stanislavski et l'acteur studio, même si on sait que c'est pas du tout la formation de Kirk Douglas, bien sûr. Qu'est-ce qu'on observe chez lui ? Quand il faut qu'il soit boxeur, il apprend la boxe. Quand il va être détective pour William Wyler, il va passer quelques jours dans un commissariat. Il essaye, encore une fois, de capter chez le personnage, de s'imprégner, de capter des gestes professionnels, de capter des attitudes. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui ressort justement de la méthode de Stanislavski, c'est que son jeu, la double opération successive d'emmagasinement d'énergie puis de décharge discontinue, ça, c'est la méthode.
It's impossible for me to summarize the case for the defense since the court never allowed me a reasonable opportunity to present my case.
Are you protesting the authenticity of this court?
Yes, sir. I protest against being prevented from introducing evidence that I consider vital to the defense. The prosecution presented no witnesses. There has never been a written indictment of charges made against the defendants. And lastly, I protest against the fact that no stenographic records of this trial have been kept. The attack yesterday morning is no stain on the honor of France. And certainly no disgrace to the fighting men of this nation.
But this court-martial is such a state and such a disgrace. The case made against these men is a mockery of all human justice. Gentlemen of the court, to find these men guilty will be a crime to haunt each of you to the day you die. I can't believe that the noblest impulse in man is compassion for another can be completely dead here. Therefore, I humbly beg you, show mercy to these men.
Le son de cathédrale quasiment est d'origine dans ce film parce que Kirk Douglas est filmé souvent très loin, isolé au second plan. Il joue le colonel Dax qui défend comme il peut trois malheureux soldats jugés en cour martiale pour lâcheté devant l'ennemi. Un procès perdu d'avance pour lui, c'est les Sentiers de la Gloire. Première équipée avec Stanley Kubrick, 3 ans avant Spartacus, un film, une des premières productions de Kirk Douglas, avec un sujet extrêmement audacieux, férocement anti-militariste, anti-institution, anti tout ce qu'on veut. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire du film qu'on n'a pas pu voir en France pendant 15 ans. Il n'est pas censuré, hein. Il est auto-censuré par les distributeurs qui, sur pression du gouvernement, ne demandent pas de visa de sortie. Mais qu'est-ce qui amène cette star qu'est Kirk Douglas à faire confiance, à s'engager autant comme acteur et producteur envers un cinéaste jeune, insolent, insupportable de 29 ans, qu'est Stanley Kubrick, qui a fait juste avant L'Ultime Razzia, qui est quand même pas un immense succès. Il va dire à Stanley Kubrick, cette année, je crois que ce film ne fera jamais un rond, mais il faut absolument le tourner, Ntebin.
Il y a deux choses, en fait. Il y a d'une part, parce que Kirk Douglas, c'est un homme des causes généreuses aussi, même parfois des causes perdues, mais il croit fondamentalement à la démocratie, et donc le sujet l'intéresse. Et puis, il voit très bien ce que Kubrick, en tant que metteur en scène, peut lui apporter. Parce que, bon, lui, c'est le nouveau producteur. Il voit L'Ultime Razzia, on a mentionné tout à l'heure Sterling Hayden, on voit comment il peut s'identifier à ce personnage-là, et puis donc il va chercher Kubrick. Ensuite, il lit un premier scénario qu'il adore, Kubrick lui réécrit son scénario pour le rendre plus commercial, et Kirk Douglas lui balance à travers la pièce. Donc il y a cette intégrité-là, parce qu'il sait que finalement c'est lui qui pourra bénéficier en tant qu'acteur, en tant que producteur de ce projet.
Christophe Leclerc, ça se passe pas très bien quand même avec Stanley Kubrick, même s'il va le faire revenir dans Spartacus après, une fois quand Tony Mann a été expulsé du tournage. Il a des mots très très durs sur lui dans son autobiographie. Là encore, je le cite, Stanley pouvait être exaspérant, mais quel talent. Il avait un moi hypertrophié, mais je finis quand même par dire, Stanley Kubrick est un sale con qui a du talent.
Oui, finalement, le duo fonctionne, même si il est certainement déséquilibré à bien des égards, mais c'est vrai pour Kirk Douglas avec beaucoup d'autres réalisateurs, où la relation est quand même tendue, conflictuelle. Finalement, une relation apaisée avec un metteur en scène, chez Kirk Douglas, c'est soit avec un yes-man, comme certains à la fin de sa carrière, je pense à Jeff Cagnew, ou alors Minnelli. Bizarrement, on peut revenir 2 secondes, avec Minnelli, effectivement, il n'y a pas eu de tension forte, de conflit, les deux hommes s'estimaient. Par contre, avec Kubrick, ça a été certainement beaucoup plus crispé, comme ça le sera d'ailleurs, avec quelqu'un qui a un caractère moins fort, Richard Fleischer, un metteur en scène de grand talent. Chez Douglas Kubrick, une anecdote amusante, c'est quand même Kubrick qui l'emportait bien souvent, les 30 premières minutes de Spartacus. Son 30 premières minutes où Kirk Douglas ne parle quasiment pas. Et ça, c'est Kubrick qui l'a imposé. Donc Kubrick recentre Kirk Douglas sur son jeu, sur un corps en mouvement, mais lui évite d'être, comme parfois, dans le surjeu, dans l'overplay, si on peut dire, que certains dénonçaient, comme Manny Farber, le critique de The Nation. Il ne supportait pas Kirk Douglas à cet égard, trouvait véritablement qu'il en faisait trop.
C'est donc aussi le producteur. Il y a une tension parce que Kirk Douglas est producteur, donc on l'a dit, des Sentiers de la Gloire, mais aussi de Spartacus. Alors, à l'occasion du décès de Kirk Douglas, on a pu lire très vite le producteur extrêmement engagé, qui va faire travailler les scénaristes de La Liste Noire, qui va exiger que le nom de Dalton Trumbo, un des 10 d'Hollywood, donc qui travaillait sous prête-nom depuis qu'il avait été blacklisté, soit mentionné sur le générique. quand on creuse un peu, on se rend compte quand même que Douglas a beaucoup réécrit sa légende et que l'intérêt, par exemple, d'embaucher des scénaristes sur liste noire, c'est que, bon, ils avaient du talent, mais on pouvait les payer beaucoup moins, Christophe Leclerc.
C'est tout à fait exact. Il y a pratiquement rien à ajouter à ce que vous avez dit. De fait, il a construit sa légende, il a réécrit son histoire au travers de sa biographie et en ne cessant de répéter dans les interviews qu'il avait réhabilité Dalton Trumbo. Calendairement, c'est faux. Je veux dire, il embauche, il recrute Dalton Trumbo pour Spartacus, c'est absolument indéniable. Sauf que Otto Preminger annonce qu'il a embauché Dalton Trumbo pour Exodus 8 mois avant, en janvier 1960, dans le New York Times. Par contre, Spartacus sort 2 mois avant Exodus. De fait, la légende s'est construite un peu là-dessus.
Entebin.
Bah, c'est-à-dire que moi, je pense que la brouille Kubrick Douglas, c'est surtout a posteriori. C'est-à-dire qu'ensuite, ce qu'on n'a pas supporté Kirk Douglas, c'est que Kubrick considère que Douglas avait été comme une sorte d'employé au service du génie créateur de Kubrick. Et donc voilà, c'est à qui va réécrire le mieux son histoire et l'histoire de l'autre. En l'occurrence, je pense que c'est s'il ne l'avait pas réengagé sur Spartacus, on aurait compris. Mais il a aussi une sorte d'intégrité quand même, Kirk Douglas, parce que il est obligé, enfin obligé ou non, mais en tout cas il licencie Anthony Mann de Spartacus et il est obligé par la compagnie de production à l'annoncer lui-même à Mann. Mais il va dire à Anthony Mann, du coup je te dois quelque chose. Et quelques années plus tard, il va travailler pour Anthony Mann. Donc il a cette rectitude là quand même.
Be my queen. I knew it the first moment I saw you. You knew it too. You knew it that night on my ship.
It's not true.
Yes. It is true.
I don't love you.
You must love me exactly as I love you.
I hate you. It's Eric I love.
Eric, for the last time.
Don't kill him. You can't. Look at this. It's from the pommel of the sword Requiter. It was given to Eric by his mother, Enid the Queen. Oh, listen to me! Rhaegar was his father!
Lies won't save him!
It's true. I swear it is! He is your brother!
Et le visage à l'œil crevé de Kirk Douglas d'envahir l'écran à la fin de cette séquence, parce que cette fois c'est un œil qu'il a perdu dans les couleurs flamboyantes des Vikings de Richard Fleischer, et celui qui a défiguré le guerrier charismatique, cette espèce de boule de muscles très impressionnante qu'est Kirk Douglas dans le film, c'est par l'intermédiaire d'un faucon, Eric, qui est joué par Tony Curtis, qui est son frère bâtard, tous deux se battent pour les beaux yeux d'une princesse galloise qu'on a entendu dans cet extrait. Morgan, c'est Janet Leigh, Tony Curtis, il va rejouer avec lui dans Spartacus. Alors, c'est le début pour le producteur, déjà, Kirk Douglas, d'une ambition incroyable. Enfin, il fait ce film de grand spectacle, tourné en décor naturel, en Norvège, dans des studios bavarois, dans un château en Bretagne. Mais c'est surtout, il me semble, un des rôles les plus intéressants de Kirk Douglas. On pourrait dire, voilà, c'est le gros viking inquiétant, mais on change d'avis sans arrêt sur lui. Il y a des moments où il est très solaire, d'autres il est ombrageux, des moments où il est très séduisant, d'autres il est très inquiétant. C'est une performance d'acteur magistral, Entebin.
Oui, je pense que son rôle dans Les Vikings correspond à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire chercher la faiblesse dans un personnage fort. Et c'est ce qu'on traque assez vite. Et dans la scène que vous avez choisie pour illustrer l'émission, il va y avoir ça, puisque il y a cette faiblesse qui va en quelque sorte causer sa perte, puisqu'ensuite il va se battre avec son demi-frère, enfin dont il vient d'apprendre que c'est son frère, et c'est l'hésitation pendant le duel, alors qu'il est clairement vainqueur, qui va faire qu'il va recevoir le coup fatal. Mais on se demande s'il le fait vraiment parce qu'il a reconnu le regard du frère, ou s'il le fait parce qu'il veut regagner l'amour de Janet Leigh, qui lui préfère son frère. Enfin, il est toujours aussi à moitié en représentation. Donc, on ne sait pas bien, mais c'est ça qui fait la force, justement, de son personnage. Et il y a aussi ce qui est très net dans la scène et puis dans tout le duel qui va suivre. C'est la manière dont Kirk Douglas est un acteur expressionniste, au sens où l'environnement, le décor, la sauvagerie des extérieurs naturels font tout d'un coup partie du personnage. C'est comme une émanation du personnage. Je pense que ça, c'est ça aussi qui lui faisait bien fonctionner avec Minnelli, qui croyait beaucoup à cette identification entre un décor et le personnage, et le corps du personnage dans le décor.
Et c'est un acteur assez technique aussi, parce qu'il n'est pas qu'instinct et intériorité. Enfin, on peut de film en film repérer des moments douglasiens. Alors, vous avez parlé de ses colères qui doivent arriver régulièrement, mais là, quand il monte la tour, il a les mâchoires très serrées, il fronce les sourcils. Enfin, vous avez repéré quelques éléments, voilà, quelques gestes signatures chez lui, Christophe Leclerc. Par exemple, sa façon de poser son doigt sur sa lèvre supérieure ou de retrousser les lèvres.
Oui, tout à fait. Il y a des gestes signatures chez Kirk Douglas. Alors, dire que c'est extrêmement pensé, bien qu'il paraisse finalement très spontané comme acteur, hein, on a le sentiment que il est dans un flux continu dans la vie, qu'il ne pense pas son jeu auparavant, qu'il ne le réfléchit pas. En réalité, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui préparait beaucoup ses rôles. Et je voudrais renvoyer effectivement à la fois à son jeu et à l'expressionnisme dont vous parliez, en tout cas au jeu extraverti, à l'inscription dans l'environnement aussi de Kirk Douglas. Je pense en particulier non pas au Viking, mais à Spartacus, cette scène où il est en cage avec Woody Strode, le sergent noir de John Ford, et il n'y a pas de dialogue, ils attendent d'aller se battre, d'aller combattre dans l'arène, et ils se regardent. Ils se regardent à la dérobée, ils se regardent avec inquiétude, il y a d'autres regards de détresse, il y a des regards de bêtes traquées, et puis enfin, chez Kirk Douglas, ce qui est très fort chez lui, parce que dans le jeu, il y a le regard, bien sûr, la résolution ferme, le fait que là, il va bondir tel un fauve, et il va laisser aucune chance à l'adversaire.
Moi, il y a un acteur auquel, enfin, j'ai pensé en regardant les extraits là que vous avez passés, mais auquel on n'accorde jamais le nom de Kirk Douglas. C'est Gabin. C'est-à-dire les colères de Gabin, les dents serrées, l'espèce de, et puis cette explosion qu'on attend pendant tout le film et qui à un moment doit forcément venir, c'est pas possible autrement. La violence envers les autres personnages, les hommes, les femmes, lui-même, ça c'est quelque chose que voilà qui me semble, et aussi ce fait que le spectateur ou même les journalistes pensent qu'il ne joue pas, c'est-à-dire on dénonce ses maniérismes, on dit que voilà il en fait trop, etc. Il a jamais eu d'Oscar. Et parce que on a l'impression que c'est juste une personnalité, une nature, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui, puis la preuve, c'est aussi son activité de producteur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui travaille énormément. Il apprend à jongler pour jouer un jongleur, il apprend le trapèze pour jouer un trapéziste, à monter à cheval pour faire un western, etc. Pour lui, ça, il y a une préparation physique, mais qui se double d'une préparation mentale, même si elle n'est pas intellectualisée.
3 nominations aux Oscars, tout de même.
What the hell kind of lesson was that to give a boy? I can't blame Pop. You should have taught me to stick up for myself. Not that, Mom. Not that.
Are you out of your goddamn mind?
Clean. And when are you going to change to Zephyr?
Now, what is your mother's fault, your father's fault? What's that, Freud? You are you, kid. Eddie Anderson, the indispensable man. All right. Let's get down to nuts and bolts.
Congratulations.
Congratulations.
I've always said time...
You had power then.
Remember what it felt like?
Power.
Ram it in.
Power. The fact is, without your job,
And without the money in your pocket, you're nothing. Well, look at you.
You know the most impressive part of you right now? That cigar. Hey, don't look at me like that, baby. Because if you think you're going to get rid of me, you're out of your goddamn mind.
Yeah, the perfect arrangement. Fat job, beautiful house, understanding wife. All the side nookie you could handle. You had it all. You did.
What is that, Edward? A little composition of your own?
They're coming to get you, Eddie.
Edward!
The Marines.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Kirk Douglas avec Christophe Leclerc et N.T. Bean. Et dernier film pour évoquer la figure tourmentée de Kirk Douglas à l'écran, très très tourmentée ici, fragmentée même, on l'entend dans le montage de cet extrait, même dissocié. Dans cet extrait, il discute avec son double, c'est l'arrangement d'Elia Kazan en 1969, le film le plus directement autobiographique de Kazan. On en avait parlé ici dans Plan Large, je crois qu'on avait même écouté le même extrait, et c'est un Kirk Douglas qui va jouer le double d'Elia Kazan. Alors c'est pas évident a priori qu'on voit les deux hommes, sauf que derrière Kirk Douglas, et on l'a pas encore dit dans cette émission, derrière ce nom si fièrement américain se cache un certain Issour Danilovitch Dembski, un juif russe, fils de chiffonnier, de même que le personnage du film, Eddie Anderson, s'appelle en fait Evangelos Topozoglou et qu'il est un grec d'Anatolie, fils d'un marchand de tapis. Est-ce que c'est peut-être là que Kirk Douglas a rencontré son personnage, Christophe Leclerc ?
Ce qui est certain, c'est que Kazan pensait plutôt à Brando. Il se trouve que Kirk Douglas l'a contacté parce qu'il avait beaucoup aimé le roman, L'Arrangement, qui était déjà un roman d'Elia Kazan. Et Kirk Douglas était très intéressé par le rôle. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi ce type de personnage, alors que c'est un personnage qui est totalement en rupture par rapport à la force, à la virulence, à l'énergie surpuissante, on va dire, de certains personnages précédents, tel Einar le Viking. Là, pour le coup, c'est un personnage qui craque. C'est un personnage qui vit une profonde dépression. C'est un personnage qui a même des pulsions suicidaires. Alors ça, on le retrouve chez Kirk Douglas régulièrement, cette espèce de propension à l'autodestruction. Ça interroge aussi chez lui.
N.T. Bean ?
Moi, il y a une anecdote que j'adore, c'est Billy Wilder qui parlait de ce film à thèse, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, qui était La Chaîne, l'histoire d'un prisonnier blanc et puis d'un noir qui sont enchaînés ensemble, puis le blanc est raciste. Et puis Wilder disait que si on l'avait proposé à Brando, Brando aurait dit « d'accord, mais je dois jouer le noir ». Si on l'avait proposé à Mitchum, il aurait dit « pas question de, pour moi de jouer avec un sale nègre ». Là, il parlait des personnalités des acteurs à l'écran. Et s'il avait proposé à Kirk Douglas, il aurait proposé de jouer les deux rôles. Et c'est exactement ce qu'on voit là. C'est-à-dire que Kirk Douglas, il ne sait pas être ambigu à l'écran. Il est forcément double. C'est-à-dire il est l'un et l'autre. Mais il n'y a pas l'ambiguïté des deux qui se mélangent. Donc il peut très bien se parler à lui-même, il se regarde lui-même, à un moment il passe en hélicoptère, et puis il se voit lui-même dans une réunion de conseil d'administration, il se méprise lui-même. Donc ça, je crois que c'est l'une des clés de la personnalité de Douglas à l'écran.
Et aussi toute une série de films, finalement, quand on les récapitule, qui sont contre l'argent, qui sont contre la réussite, qui sont contre le mythe du self-made man, qui sont très contestataires, en fait, sous l'apparat du film hollywoodien, ce que résume complètement ce film, Christophe Leclerc.
Hier, dans l'Humanité, je crois que la couverture était Kirk Douglas, effectivement, et voir un millionnaire américain en couverture de l'Humanité, c'est quand même assez intéressant. S'il l'est, ce n'est pas le hasard. C'est pas seulement parce qu'il a fait 100 millions de dons à des œuvres au cours de sa vie. C'est parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il a une conscience sociale. Et de fait, avec l'arrangement, il tombe bien. Parce que c'est une critique virulente de la société de consommation, de la bourgeoisie américaine, du clinquant, du superficiel. Ce que je voudrais dire quand même, pour terminer sur cette partie-là, c'est qu'il offre ici, et c'est peut-être pour ça que le rôle l'a beaucoup intéressé, une variante de son archétype favori, c'est l'homme libre, entravé. L'homme libre entravé, soit par une puissance, un lobby, des propriétaires terriens dans les westerns.
L'homme qui n'a pas d'étoile.
Voilà, ouais. Ici, c'est tout à fait ça. C'est l'homme qui n'a pas d'étoile, le modèle idéal, on va dire, formateur. Ici, il est entravé par son mariage bourgeois. Il repense constamment à sa maîtresse magnifique, Faye Dunaway. Il est entravé par la relation à un père tyrannique. Et là, ça renvoie à la biographie à laquelle vous faisiez référence, Antoine. Il a une relation très difficile avec son père, Kirk Douglas. Il est entravé par sa vie professionnelle. Il se ment à lui-même, il est publicitaire, il vante les vertus des cigarettes, et il sait très bien qu'il ment. Voilà. Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie. Met her down in Madagascar. She would kiss me anytime that I would ask her. Then one evening, her flame of love blew out. Blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's so true, I swear by my tattoo. There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up, she was the captain's wife. Got a whale of a tale to tell you, boys, a whale of a tale or two. By the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo. There was Harpoon Hannah, had a face that made you shudder, lips like fish hooks, and a nose just like a rudder. If I kissed her and held her tenderly, there's no sea monster big enough to ever frighten me. Got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
Bravo Ned Land, bravo son otari et son banjo, c'était bien Kirk Douglas tout en trémoussement du fessier qui chantait A Whale of a Tale dans 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer en 1954. Merci et bravo à vous Christophe Leclerc et Anne Tebbin d'être venus à Brûle pour Point évoquer en direct la très magnifique carrière de l'homme à la fossette. Votre livre Christophe Leclerc, Kirk Douglas, le fauve blessé, est publié à l'Armatan, tout comme le cinéma de John Huston entre l'épique et l'intime dont vous étiez venu nous parler dans un chapitre précédent de notre encyclopédie du cinéma, et tout comme votre nouveau livre, Alain Delon, l'acteur qui offre son âme, qui vient de sortir et sur lequel on reviendra certainement dans cette émission. Un beau livre richement illustré sur Kirk Douglas s'est paru également récemment aux éditions Rive-Neuve, un parcours bibliographique et filmographique très complet signé Georges Di Lalo et intitulé tout simplement Kirk Douglas. Quant aux mémoires de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, Kirk Douglas construisant sa légende, c'est chez Archipoche. Et toujours de Kirk Douglas, si vous voulez en savoir un peu plus sur le tournage du légendaire Spartacus de Stanley Kubrick du point de vue de sa star et producteur, le livre donc de Kirk Douglas, I Am Spartacus, est édité en France par Capricci. Spartacus que vous retrouverez d'ailleurs demain dans l'émission Personnages en personne de Charles Danzig à 15h comme tous les dimanches sur France Culture. Et puis demain soir sur Arte, vous pourrez voir et revoir Règlement de compte à Hockey Choral de John Sturges. Tous les films dont vous avez entendu des extraits dans cette émission sont évidemment disponibles en DVD, sauf Le Gouffre Chimère, je le crains, de Billy Wilder. On attend toujours son édition en France. Avis donc aux éditeurs de vidéos qui nous écoutent. Et on vous recommande particulièrement la très belle édition en Blu-ray et DVD de la version restaurée des Vikings de Richard Fleischer. C'est chez Rimini Éditions.